Les nouveaux sauvages. Une émission présentée par Marie Laloum.
Nicolas Jennings est artisan parfumeur et fondateur de Charigny Parfums Naturels. Vous entendrez ses origines britanniques grâce à son accent. Et si vous le croisez à Saint-Guilhem-le-Désert, dans sa boutique L'Atelier d'Essence, il a un style plutôt chic décontracté, doté de grandes moustaches avec des cheveux longs. Et ces moustaches ressemblent un petit peu à Dali, que l'on imagine être un outil, une extension de ses narines pour sentir les plus subtiles odeurs et créer ses parfums éthiques, bio et uniques.
Salut, merci beaucoup pour cette drôle introduction.
Tu m'as demandé d'être un peu inventive pour cette émission. Alors, dans Les Nouveaux Sauvages, moi, j'aime bien un petit peu aborder des personnages voilà, que j'aime bien, qui ont un parcours un petit peu atypique, qui ont une passion. Alors, je me suis demandé, pour éviter de commencer par ce que tu fais comme métier, puisque je l'ai quand même déjà annoncé, c'est plutôt de nous partager un petit peu les odeurs, les senteurs que tu associes à tes souvenirs d'enfance et les moments importants dans ta vie. Voilà, un petit peu partager ça.
Ok, well, peut-être le plus étrange et pas du tout quelque chose que vous imaginez pour un parfumeur, c'est l'odeur de la voiture de ma grand-mère qui n'a jamais enlevé le petit côté plastique qui protégeait le siège. Elle était faite, c'était une toute petite mini. Et j'avais peut-être, je ne sais pas, 3-4 ans. Et c'était un odeur évidemment tout à fait synthétique, horrible. Mais ça m'a marqué tellement. Et je suis toujours, chaque fois que j'entre une voiture, j'essaie de sentir, de voir si je retrouve ma grand-mère. Mais non, pour l'instant, ça m'échappe. Donc ça, c'est quelque chose, peut-être pas forcément parfumé dans le sens classique. Après, nous, on a le côté écossais dans ma famille, le côté de ma mère. Donc, chaque été, on est monté en Écosse, voir la famille là-bas, et on était dans des espèces de petits cottages sous le terrain d'un château où tout sentait. Toute la maison, le cottage, le dehors, tout avait des odeurs incroyables, fabuleux, de bruyère, de vraiment tout était mystique. Et ça, ça m'a marqué, et ça m'a lancé une curiosité. Toujours vers le côté olfactif de très jeune âge.
Forcément, je vais parler de l'auteur Susskind, le parfum. Alors, si tu avais été Jean-Baptiste Grenouille dans le roman Le Parfum, dans quel pays ou dans quelle ville ou dans quelle région du monde tu irais pour extraire le parfum unique?
Ouais, d'abord, n'inquiète pas, Marie, je ne vais pas prendre tes odeurs. On reste dans une respect professionnel. Je crois qu'en fait, je n'aurais pas allé si loin que ça parce que c'est pas forcément très connu, mais Montpellier était la capitale de parfumerie avant Grasse. Et Grasse s'est installée un peu plus comme le maître de parfumerie en 17e, 18e. Mais avant Montpellier, avec le mélange entre la parfumerie et la médecine, était vraiment un lieu extrêmement important dans le monde entier pour tout ce qui était olfactif. Donc en fait, je n'aurais pas très bougé. Je vais peut-être aller à Montpellier, dans vraiment le centre, le cœur, la beauté de Montpellier. Et voilà, le jardin de plantes là-bas, ça a resté depuis des siècles. Je pense que je vais rester là.
Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'histoire du parfum, de ses origines, depuis quand en fait ça existe le parfum, comment ça a émergé?
Ah, wow. Le parfum, c'est depuis toujours. Depuis chaque cérémonie préhistorique, on trouve toujours des résines, du bois, des choses olfactives qui étaient utilisées. Souvent dans tout événement spirituel aussi, on jetait des choses dans le feu pour que ça sente, qu'on entre dans un autre état. Et comme c'est un sens pas du tout intellectuel, mais qui est très très profond, ça permet de voyager vraiment sans bouger. Donc les origines, c'est depuis depuis le temps. Le côté moderne, en fait, avant c'était vraiment gardé pour les riches et l'aristocratique et la royauté, pour se parfumer avec l'eau de rose, etc. Mais en fait, le début vraiment de parfumerie, on va dire plus populaire, on est vers le 17e, où on commence vraiment de se parfumer plus librement. Et si on parle vraiment dans le sens moderne, on est vraiment dans l'introduction au 19e de la molécule synthétique. Donc à 1850, je crois, c'est l'une des premières molécules fabriquées qui permet qu'on peut produire énormément du parfum pour un grand public. Mais avant ça, non. Dès que c'était la matière première naturelle, c'était pas du tout commercialisé. Il y avait des parfumeurs qui se déplaçaient dans le village de différentes cultures pour se parfumer les gens. Donc, mais si on vraiment regarde comme aujourd'hui, le monde de parfumerie, on tous prend un flacon. Ça, c'est relativement moderne. Vraiment.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des étapes de production et de conception du parfum, comment ça se fabrique, et puis les différentes périodes, en fait, là où on récolte, où on transforme, et on arrive au parfum.
Évidemment, avec le nom de l'entreprise Charigny Parfum Naturel, l'accent ici, c'est vraiment sur la matière première naturelle. Donc, moi, j'utilise les huiles essentielles, les absolus, les extraits, les tinctures. Il y a plusieurs différentes façons d'extraire des plantes. Donc, les saisons pour moi, toutes les saisons sont importantes parce que je fabrique, on a un atelier ouvert au public. Mais certaines plantes, évidemment, suivent les saisons aussi. Donc, c'est plutôt olfactivement important en printemps et en été. Donc, le printemps, c'est là où toutes les fleurs s'apparaissent et le monde commence à s'agiter et réagir de ce côté olfactif. Donc là, on a du thym, le romarin, toutes les fleurs commencent, jusque le rose en mois de mai, avril-mai, et la lavande plus tard dans l'été. Donc, le jasmin aussi. Donc moi, je travaille, j'ai fait certaines récoltes, mais je travaille avec plusieurs extrêmement gentils gens qui produisent des plantes locales aussi. Donc c'est une vraie collaboration. Je travaille avec un couple à côté de Clermont-l'Hérault. Je travaille avec une jeune femme à Montpérou qui fait d'incroyables choses en bio aussi. Donc moi, je suis, dès qu'il y a quelque chose qui change, je suis là.
Une fois que tu as récolté donc, les fleurs, les plantes, voilà, toutes ces odeurs, qu'est-ce qui va se passer? Et voilà, tu vas les faire sécher, tu vas ensuite faire des macérations. Comment ça se passe en fait ensuite?
Alors, ça dépend de quelle plante. Sécher, c'est rarement intéressant pour les choses très olfactives. Par exemple, le cueillette de rose, ça se fait le matin. Et à midi, on est déjà en train de distiller. Chaque seconde est précieuse parce qu'on perd le côté olfactif avec le temps, donc on ne peut pas laisser longtemps. La lavande, le thym, les plantes aromatiques de garrigue, c'est à part parce qu'on peut faire sécher et distiller après. Ils gardent les huiles essentielles dedans, donc ils sont un peu plus pardonnants avec le temps. Je cultive un petit peu de patchouli aussi, qui est pas du tout d'ici, mais en hiver, je le protège, je fais rentrer en pot, etc. Et le patchouli, c'est une plante, tout le monde connaît le nom, tout le monde connaît, mais en fait, c'est rarement vu en plante, ça s'approche de la famille de menthe, c'est des grosses feuilles. Et en fait, quand c'est vert, c'est même pas intéressant pour un parfumeur. Il faut faire sécher, il faut faire même presque une mini-fermentation, un peu comme le thé. Et donc, je suis un grand consommateur de thé aussi, comme le patchouli. Donc, cette micro-fermentation permet de se libérer les molécules olfactives qui donnent cette classique note très terreux, très profonde, très riche de la patchouli. Donc moi, là, j'ai fait plutôt une teinture parce que la quantité nécessaire pour distiller, pour faire une huile essentielle est énorme. Il faut avoir vraiment presque un hectare de terrain de patchouli. Donc pour l'instant, j'ai fait de petites teintures. Donc c'est une macération dans l'alcool bio de la plante séchée, suivie cette petite fermentation. Et là, on a cette fabuleuse note de patchouli, donc une base d'un parfum. Donc cette transformation entre la plante vivant jusqu'au flacon, et il y a plusieurs différentes étapes, ça dépendant de quelle plante. Mais c'est merveilleux pour moi pour retrouver dans un flacon un senteur vraiment magnifique qui existait et qui était local.
Et c'est ce que tu appelles la parfumerie vivante.
Exactement, c'est mon petit sous-nom pour mon entreprise, parce que quand on entre dans une parfumerie moderne, c'est quasiment toujours la molécule de synthèse dominante dans le parfum, même de grandes marques. C'est vraiment, malheureusement, on imagine, on est dans un univers où on crée l'image que vous êtes en train d'utiliser la fleur de jasmin dans votre parfum. C'est rarement ça. En fait, c'est des molécules comme l'acétate de benzyle, l'alcool de benzyle. C'est une molécule qui vraiment sent le jasmin, qui existe naturellement dans la plante, mais qui s'en fait en synthèse. Peut-être une petite entre parenthèses, c'est que pour l'une des premières règles des étudiants de parfumerie industrielle, c'est qu'un parfum ne peut pas dépasser 3% en coût de le prix de vente. Donc un parfum à 100 €, ça ne peut pas dépasser 3 € de coût de fabrication. Et ça, on parle de le flaconnage, l'emballage et le fameux jus, donc le jus de parfum, vraiment la matière première olfactive. Donc là, ça se réduit vers maxi 1 € pour un parfum de grande marque. Donc quand vous avez 1 € par exemple, un absolu de jasmin d'aujourd'hui, on a entre 8 et 12 000 euros le kilo. Les synthèses, c'est peut-être 150-200 €. Donc voilà, c'est là le choix. Et la parfumerie vivante, pour moi, c'est vraiment parce que c'est des plantes. C'est pas le restructure, c'est pas le refaire avec la molécule, c'est la plante lui-même qui est active, qui a vraiment un caractère, des nuances qui sont jamais pareilles. Les grands crus de parfum, où l'année est mieux que l'autre, c'est jamais pareil. La lavande de cette année ne va pas sentir identique que l'année dernière. Et le parfum industriel, ils n'aiment pas ça. Il faut que ça soit vraiment stable. Stable prix, stable de production et stable olfactif. Et moi, ces choses-là, ce n'est pas grave. J'aime ces nuances, c'est la vie.
Ça veut dire que donc, tes parfums sont toujours différents d'une année à une autre. Alors bon, forcément, il y a toujours quand même la base. Si on sait c'est de la rose, ça sera toujours de la rose, mais avec peut-être une note un petit peu différente selon l'année et le cru comme le vin, en fait.
Exactement. Évidemment, autant que parfumeur, je respecte la formule. Donc, je ne peux pas changer chaque année une different production avec une different formule, parce qu'on a tout un protocole sanitaire et toxicologie. Quand on fait un parfum, c'est une cosmétique, donc on a besoin quand même de faire tous les tests, etc. Donc, mais juste pas simple que l'huile essentielle lui-même avoir des petites nuances olfactives, ça peut faire que, oui, ça ne sent pas exactement pareil. Peut-être que ce n'est pas tout le monde qui va reconnaître, mais pour moi, en tant que parfumeur, je sais qu'une année, j'avais une iris. Le rhizome d'iris, c'est une matière première exceptionnelle. Il faut faire sécher pendant 3 ans le rhizome pour avoir un petit côté très poudré en parfum. Et il y a 2-3 ans, j'avais une année où c'était absolument exceptionnel. Et j'avais presque pas envie de vendre mes parfums aux iris parce que c'était tellement rare d'avoir si bonne qualité. Mais voilà, après, est-ce que tout le monde va vraiment voir? Je sais pas, mais moi aussi.
les plantes, les fleurs, etc., tu vas les trouver ici ou tu vas aussi... comment ça se passe? Est-ce que tu... Voilà, c'est qu'une production locale ou extérieure?
Il y a une partie évidemment éthique de moi de travailler le maxi possible.
Nicolas Jennings, parfumeur.
En local, j'ai même fait un parfum qui a vraiment un accent sur la matière première locale, quasiment 80% de tous les ingrédients viennent alentour de Saint-Guillaume-le-Désert. Mais ce n'est pas tout le cas. Donc, certains produits, le santal, la vanille, pour l'instant, on ne peut pas cultiver peut-être avec le changement climatique. Mais non, je quand même travaille, mais j'essaie de toujours travailler directement avec le producteur pour éviter une chaîne de revente et de grossistes. Moi, j'aime savoir qui était avec la plante, qui a touché l'arbre. C'est quoi l'éthique? Et pour moi, ça crée même quelque chose d'extrêmement fort entre moi, le parfumeur, et la personne qui a produit la plante, et le consommateur. Ça fait une confiance et surtout un plaisir. Parce que mon métier, c'est vraiment ma vie aussi. Il y a beaucoup de reflets dans qu'est-ce que j'ai fait et comment j'aborde mon métier avec le même développement personnel et respect que dans ma vie privée.
Et alors justement, quand tu es un vrai alchimiste, donc quand tu vas distiller et une fois qu'après tu vas vraiment composer des parfums, est-ce que tu peux voilà, nous donner un petit peu des éléments? Il y a déjà différentes notes, notes de cœur, notes de tête et je ne sais plus la dernière note. Mais voilà, voilà, c'est toute une alchimie en fait quand tu composes tes parfums.
Oui, l'alchimie, c'est un mot assez particulier que je peut-être vais... Tout le monde souvent me fait référence comme un alchimiste, mais non, je suis plutôt dans le côté chimie et dans l'art. Parce que c'est deux axes très importants en parfumerie à maîtriser. Quoique la maîtrise pour moi c'est aussi une grande question. L'art doit avoir l'inconnu aussi, mais au niveau côté technique, je maîtrise très bien. Le côté artistique et création, comme tu as dit, la note de tête, la note de cœur et la note de fond, c'est la pyramide olfactive. Et là, on est assis devant l'orgue de parfumerie ici à Saint-Guillaume, qui est un magnifique meuble recréé à partir des orgues du 19e siècle. Et là, c'est une façon d'organiser mon espace de travail, en fait. Mais la note de tête, c'est le plus volatile. Donc, souvent les agrumes, le pamplemousse, etc. Et ça s'en va plus rapide. Et la note de cœur, c'est un peu le thème floral avec le jasmin, la fleur d'Angers, la rose... Et au fond, le côté stable, le socle, le fixateur, la fondation de cette magnifique structure, c'est la note de fond. Et là, il y a le santal, le musc, le patchouli, la vanille, le cèdre, toutes ces notes, le vétiver, permet qu'un parfum ait une évolution, pas juste chronologique, mais une espèce de vague olfactive où on ne sait plus du tout quel moment on sent le rose ou le patchouli ou le pamplemousse. Donc là, de la parfumerie est vraiment quelque chose qui voilà, j'ai étudié, mais qui en permanence, je suis toujours un élève de cette magnifique art et ça fait plus que 20 ans de travail et j'adore que tout soit frais et nouveau chaque jour quand je suis en création.
Quelle va être la frustration pour un parfumeur?
La frustration, j'aime la frustration. C'est une excitation, c'est un autre mot pour excitation. Et la chose qui m'excite, qui me frustre, c'est quelquefois de sentir une plante ou d'avoir presque un rêve olfactif parce que d'avoir travaillé si longtemps avec les choses. On a déjà du côté olfactif, on sent qu'est-ce qu'on a envie de créer. Et quelquefois, de recréer ça, c'est impossible. Donc ça, c'est un type de frustration. Mais une frustration aussi, c'est quand on travaille sur un accord ou sur un parfum, ça peut durer presque 18 mois. Ça peut se faire très rapidement, très instinctivement. Mais souvent, c'est comme un sculpteur. On travaille, on fait cette base et petit à petit, on recrée des accords pour trouver un équilibre vraiment plus intéressant. Et Donc, vive la frustration.
Tu fais des formations aussi. Tu t'accompagnes à savoir comment faire des parfums. Et tu aussi, tu crées des parfums avec des particuliers.
Je fais d'abord la création sur mesure. Donc, j'ai souvent, chaque matin, un client qui vient. On ferme l'atelier et la personne est assise devant l'orgue. Et là, on passe presque 2 heures ensemble. En vraiment trouver quelque chose qui le fait vibrer. Et ça, c'est un moment assez atypique et très agréable pour moi parce que je ne suis plus la personne en côté créatif. Je suis juste là pour être relativement passif et à l'écoute. À le découvrir ensemble pour finir, pour trouver quelque chose vraiment qui veut le bien. Donc ça, c'est le côté création sur mesure. La transmission, c'est quelque chose qui prend plus en plus d'ampleur dans ma vie et envie dans ma vie. Et ça fait plus que 5-6 ans que j'organise le stage de parfumerie, qui est assez profond, mais relativement court. On fait la distillation, tout le monde travaille dans le propre org. Pour l'instant, c'est que 2 fois par an. Donc toujours sous-bouclé. Beaucoup de monde, mais c'est vraiment un vrai partage avec des gens de tous différents domaines qui viennent pour développer la connaissance sur le métier de parfumerie.
Quelles seraient tes perspectives là, en tant que parfumeur depuis 20 ans que tu fais ça, maintenant tu es dans la transmission, qu'est-ce que ce serait ton rêve ?
Oh, le rêve. Ouais, j'ai beaucoup. Je crois que le rêve peut-être le plus répétitif qui arrive dans ma vie, c'est déjà d'être si heureux qu'aujourd'hui. Mais j'ai une envie de peut-être trouver un lieu où on peut faire tout sur place. Pour l'instant, j'organise le stage dans un magnifique bâtiment d'XIe siècle, juste à côté de l'atelier. Mais on a sur l'horizon une envie d'avoir un lieu où on peut recevoir tout le monde pour visiter mon jardin de parfumeur et se loger sur place et faire du stage sur place. Donc, toujours de rêve, mais aussi profiter de le moment. Je réalise que chaque jour est précieux. Je suis extrêmement heureux et j'ai beaucoup de chance pour adorer mon métier, d'être en bonne santé. Donc voilà.
Père, je me demande si on fait un petit tour de la boutique, tu avais envie de montrer 2-3 choses ou pas dans la boutique pour finir ?
Avec grand plaisir. La parole, c'est une chose, mais pour moi, je trouve que les parfums et les huiles essentielles parlent beaucoup mieux avec un accent moins prononcé que moi en plus. Donc déjà dans ma poche, je suis toujours avec quelque chose et peut-être un huile essentielle emblématique et très proche de mon cœur, c'est de très bon bois de santal. Je suis peut-être vraiment, c'est l'une de la matière première où je suis très spécialisé, j'adore. Et c'est très rare de trouver la bonne qualité. Le Santalum Album, le bois de santal, est très recherché, très précieux. C'est quasiment le prix de l'huile essentielle de rose. Mais il faut que c'est riche en 2 molécules, alpha et beta santalol. Et c'est très rare qu'on trouve l'huile essentielle qui est riche en ces 2 molécules. Il faut que l'huile essentielle est déjà, l'arbre est déjà assez vieux et que l'huile essentielle se repose aussi. Donc je te fais sentir un santal en très riche en ces molécules. Ça tient, c'est doux. C'est pas du tout un parfum comme le patchouli qui domine tout. C'est subtil, c'est sensuel, c'est boisé, mais il reste. Donc ça va te partir avec toi toute la journée. Et j'espère que c'est quelque chose qui, voilà, c'est réconfortant. Il y a un petit côté lactonique, un crémeux, mais boisé aussi. Donc ça, c'est un ingrédient. Alors, un parfumeur sans le rose n'est pas un parfumeur. Et moi, j'ai l'extrême chance, je cultive le rose chez moi. Et aussi, je travaille avec Annie et Luc à Nébion pour produire de l'huile essentielle, surtout l'eau de rose et une huile de rose. Ils sont tout en bio, ils sont magnifiques, le rose. Et donc, c'est une rose centifolia. Et là, je vais te faire sentir le rose d'ici. Donc, on est vraiment à côté de Clermont-Leroux, à Nébion. Et c'est un petit bijou olfactif. Donc, tu vas partir très parfumé. J'assume.
Et ouais, parce que en fait, quand tu te retrouves avec autant de parfums dans la boutique, enfin, ça te fait pas mal à la tête à des moments où ça fait pas. Comment t'arrives à gérer ça?
Ouais, l'avantage déjà de travailler en matière première naturelle, c'est pas comme d'entrer dans une parfumerie. Au bout de 10 minutes, on a mal à la tête, on peut plus respirer. Ici, c'est que naturel, mais la saturation olfactive, c'est une de les choses en parfumerie. Il faut bien se protéger. Donc moi, la chose que j'ai fait, c'est j'ai des graines de café. Et les graines de café, c'est comme un bouton de reset.
Ouais.
Ça permet qu'on peut sentir encore d'autres choses. Donc, je fais ça régulièrement. Je fais les nettoyages.
Ah, mais le café, ça permet.
Le café, c'est une fabuleuse façon de recommencer, de sentir soi-même aussi. Étrangement, c'est une bonne façon. Et évidemment, aller prendre l'air. Donc, je travaille rarement. En longue duration, souvent, quand c'est vraiment dans la créativité, 45 minutes. Mais ici, je peux rester deux jours, comme je fais, sans que j'ai mal à la tête, au contraire. Et le café, ça permet de revenir avec quelque chose de doux et ensuite de ressentir d'autres notes avec plus de subtilité, pour ne pas être trop saturé. Oui, pour les auditeurs qui nous écoutent, vous ne voyez rien, mais ce n'est pas trop grave parce qu'on peut fermer les yeux ici. C'est une boutique et atelier en même temps, très, très fonctionnelle parce qu'on fabrique ici, avec énormément de différents flacons, de huiles essentielles, de teintes chaudes, d'huiles macérées, de plantes séchées, même de thé, mon côté anglais, autant que je garde un peu de thé pour moi. Donc, il y a du bois du cadre qui est fait local ici à Saint-Guillaume-le-Désert, l'encens fabriqué ici. Donc, énormément de produits tout alentour de tout ce qui est doux et parfumé. Au départ, j'étais toujours basé sur la parfumerie, hein, mais d'être dans ce métier, je suis forcé d'entrer dans plusieurs différents aspects. Donc, l'aspect parfumerie, mais l'aromathérapie et l'olfactothérapie. Donc, et c'est un mélange de tout. C'est une considération. Même mes parfums, je trouve un équilibre dans le côté olfactothérapeute, donc pour avoir vraiment un bien-être grâce à sentir de bonnes choses. L'aromathérapie, c'est autre chose, mais dans l'atelier, j'ai des choses comme le tea tree, le gold tree, la ravensara, l'eucalyptus, qui ne sont pas forcément les axes de parfumerie fines, mais qui sont essentiel dans le bien-être quotidien, contre les rhumes, contre les virus, etc. Le tea tree, ça ne semble pas forcément le plus gay de toutes les huiles essentielles, mais c'est absolument essentiel.
Ouais, donc ça fait partie en tout cas de ta pratique éthique d'utiliser en tout cas les huiles essentielles.
Ouais, surtout dans cet aspect de olfactothérapie. Ça me touche beaucoup plus. J'ai déjà fait du travail avec des gens, par exemple, en stade de fin de vie. Donc, on n'est pas juste simplement là sur un accessoire olfactif. On est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus profond sur l'impact de sentir des choses pour peut-être soulager, donner quelque chose où on n'est pas là pour se soigner la personne. Et pour moi, ça relative beaucoup de choses sur mon métier parce qu'un parfum, c'est un parfum. Mais quand je vois l'importance et l'émotion qui peut être provoquée par le senteur, je suis très humble.
Merci Nicolas Jennings de Charini, parfum naturel. À tout bientôt.
Ouais, merci beaucoup. Bonne journée.
Les nouveaux sauvages. Une émission présentée par Marie Laloume.